ensemble ce mot « temps », à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Bonjour à vous. Alors, s'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Eh bien, nous y voilà au printemps. Eh bien oui, on attend toujours cette saison avec quelquefois impatience et on l'accueille toujours avec joie. Et pour cause, car s'il n'est pas d'hiver sans neige, eh bien il n'y a pas de printemps sans soleil. Et je continuerai en disant qu'il n'y a pas de joie sans être partagée. Et permettez-moi de partager celle d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition de l'Air du Temps. Et c'est en chanson que Michel Fugain annonce le temps du renouveau.
Dépêche-toi, ne perds
tout de suite, on se sent mieux et c'est sur Radio Plus. Alors la semaine dernière était consacrée aux alternatives aux pesticides. Nous avions vu avec Jean-Louis Ouatté, président de l'Extrême Nature, que ces produits phytosanitaires posent un véritable problème de santé publique, car l'épidémiologie nous montre que les personnes exposées aux pesticides ont plus de risques de développer de nombreuses maladies, le cancer, l'Alzheimer, Parkinson, infertilité, autisme, et on en passe, et pas des moindres. Alors nous étions restés dans notre beau pays qu'est la France, mais aujourd'hui nous compléterons l'information, je dirais les informations, en nous rendant au-delà des frontières. Simplement deux chiffres, 1000 euros de pesticides sont consommés chaque seconde dans le monde, à savoir que le marché mondial représente environ 40 milliards de dollars, chiffre à peu près stable depuis les années 2000. Avec Bertrand Trinel, nous respecterons justement la nature, cette nature qui sait tant nous donner lorsque nous restons en osmose avec elle, et ce sera notre rubrique Jardiner autrement. Et puis nous verrons que nous avons la possibilité de transformer nos angoisses ou phobies en pensées positives. Cette pratique psychocorporelle s'appuie essentiellement sur la détente physique et sur la respiration, et c'est Valérie Bailleul, thérapeute à Béthune, qui nous en dira plus sur les méthodes qu'elle pratique et dans quel domaine elle peut intervenir. Et voilà, tout cela c'est sur Radio Plus, et justement, eh bien, relaxons-nous ensemble avec Lynn Renaud. C'était en 1955, et figurez-vous qu'elle chante en compagnie de Dean Martin.
When you're too tense, it's common sense to relaxez-vous. The more you earn, the less you learn to relaxez-vous.
Oui, French, you'll find are more inclined to relaxez-vous.
Relax, 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 relaxez-vous.
Your doctor bills a hole for pills to relaxez-vous. You're in your prime, so now's the time to relaxez-vous.
The girls pursue those fellas who can relaxez-vous.
Relax, 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 relaxez-vous.
You're as tight as a drum.
You're as gay as a tune.
You better loosen up, chum. Your drum is apt to snap and go boom, boom. And when you go, they'll take your dough.
For the taxi-voo.
Relax-a-voo.
Get your sneakers and slacks. Relax-a-voo.
I don't have to try to relax-a-voo.
Chum, I'm much too numb to relax.
We French, you'll find, are more inclined to relax.
Relax, 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 relax.
Bub, I take a tub to relax.
Bub, I sit and scrub to relax.
The girls pursue those fellows who can relax.
Relax, 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 relax.
You're as high as a drum.
I'm as loose as a deuce.
You're as gay as a tune.
I'm as light as a kite.
Better loosen up, chum. Your drum is happy to snap and go. And when you go, they'll take your dough.
For a taxi-voo.
Relax-a-voo.
Get your sneakers and slacks. Relax-a-voo. Get your sneakers and slacks. Relax-a-voo.
Lynn Renaud en compagnie de Dean Martin. Alors, notre enquête dans l'air du temps, vive le printemps, et même si on entend souvent il n'y a plus de saison, eh bien on est bien obligé de constater une différence de température entre le 15 janvier et le 15 juillet. Que l'on préfère la fraîcheur ou la chaleur pendant l'année, tout le monde y trouve son compte. Alors, plutôt sport d'hiver ou farniente au soleil? Quelle est la saison préférée des Français? Et le sondage réalisé pardon, mais le printemps à la première place. Le temps s'est adouci, l'hiver est parti, les températures sont souvent agréables, ni trop froid, ni trop chaud. Eh bien, c'est ce qui plaît aux Français. Et en deuxième position du classement, on retrouve l'été, souvent synonyme de vacances. On peut s'habiller plus légèrement et le soleil met de bonne humeur. L'automne prend la troisième place du podium de la saison préférée des Français et la dernière place revient à l'hiver. On dirait bien que le froid et la neige ne soient pas des plus appréciés par les habitants de l'Hexagone. Alors on remarque que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à préférer le printemps et l'été. Alors serait-elle plus frileuse ou alors les hommes supporteraient-ils plus difficilement la chaleur? Savoir. Et oui, mais là, il est là et on le garde. C'était Hugo Frey en live avec cette chanson, une des plus populaires de son répertoire. Et alors, cette première semaine de printemps a été celle pour les alternatives aux pesticides. On en a parlé la semaine dernière avec Jean-Louis Ouatté, président de Lettres Nature, que l'on retrouve tout de suite.
Ça danse sur la planète.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, traditionnellement célébrée lors des 10 premiers jours du printemps, la semaine pour les alternatives aux pesticides est une opération internationale annuelle ouverte à tout à chacun. Son but est d'informer le grand public sur les conséquences de l'usage des pesticides de synthèse dans notre agriculture et promouvoir une prise de conscience qu'une alternative reste possible. Alors, nous avons vu cela ensemble dans l'air du temps de la semaine dernière avec vous, Jean-Louis, mais aussi avec Bertrand Trinel qui nous a donné justement quelques alternatives. Cette semaine a été internationale et pour cause, s'il reste beaucoup de choses à faire dans notre pays, eh bien la tâche est aussi immense dans certains autres. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, semaine internationale car beaucoup d'autres pays ont aussi une consommation excessive de produits phytosanitaires. Et dernier scandale, je dirais, inscrit dans la presse, la Suisse exporte des produits interdits à la vente au sein de l'UE vers des pays en voie de développement, c'est-à-dire vers les pays les plus pauvres.
Oui, alors, bon, il n'y a pas que la Suisse, ça part de Suisse puisque c'est fabriqué en Suisse, mais c'est la France qui autorise l'exportation d'un pesticide interdit vers des pays en voie de développement, hein. Et donc, il y a une ONG qui a alerté, c'est Public Eye, qui a alerté sur l'exportation d'atrazine. Donc, c'est un pesticide controversé, dangereux. Il est encore exporté vers des pays en voie de développement, en dépit des conventions internationales sur le transport des déchets dangereux. Alors, il faut savoir que c'est un herbicide puissant et toxique, très répandu dans les années 60. Il a été interdit en Europe en 2003. Donc, c'est un désherbant principalement utilisé dans les champs de maïs et de canne à sucre, et il continue malgré tout d'être produit et exporté par plusieurs pays d'Europe vers des pays en voie de développement, malgré les conventions en vigueur. Il faut savoir qu'on trouve encore, nous, dans nos nappes phréatiques, des traces d'atrazine. Hein. Quand on analyse la qualité de l'eau, eh bien, toujours, l'atrazine est toujours présent, bien qu'il ait été interdit depuis quand même déjà de nombreuses années. Donc, selon le journal Le Monde, la France aurait autorisé 142 exportations d'atrazine, 142 depuis 2004, dont 33 vers des pays africains, qui sont signataires pourtant de la Convention de Bamako, qui interdit l'importation de déchets dangereux et radioactifs sur leur territoire. Et puis, selon l'Agence européenne des produits chimiques, la France aurait autorisé l'exportation de ce produit vers 6 pays depuis le début de l'année, donc l'Azerbaïdjan, le Soudan, la Chine, le Pakistan, la Suisse, l'Ukraine. L'ONG met en cause d'autres pays européens, on n'est pas les seuls, la Suisse, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, eh bien, lesquels exportent aussi ce pesticide malgré son interdiction au niveau européen. Alors, il faut savoir que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qu'on appelle la FAO, et puis l'Organisation Mondiale de la Santé, eh bien, s'attaque justement aux pesticides toxiques dans les pays en voie de développement. Ces produits qui ont une toxicité très aiguë sont responsables de nombreux cas d'empoisonnement direct dans les pays en voie de développement. Ils engendrent bien entendu des cancers, des troubles de développement chez les enfants. Et puis, il faut savoir que les petits exploitants agricoles de ces pays en voie de développement ne disposent souvent pas ou peu d'équipements de protection. Donc, ils ont recours à des pulvérisateurs à dos, et puis ça les expose à des risques très importants.
Alors, est-ce qu'il y a une solution pour ça ?
La solution, c'est qu'il y ait des directives beaucoup plus strictes au niveau mondial, justement, et c'est important que la FAO et l'OMS s'attaquent au sujet pour justement aussi proposer aux pays en voie de développement des directives, une feuille de route pour les aider à identifier et à se priver justement de ces pesticides qui sont vraiment dangereux pour leur population.
Alors dangereux pour leur population, et puis forcément, Jean-Louis, il y a aussi des produits importés en France. Donc de toute façon,
on en subit aussi. De toute façon, ça nous revient, hein.
Bien sûr. Alors, durant ces jours derniers, c'est l'alimentation qui a été mise à l'honneur. Et la semaine dernière, Bertrand Trinel nous expliquait qu'en France, le label bio, c'est-à-dire l'étiquette AB, est quelque chose de fiable. Alors, est-ce que c'est vrai pour tous les pays? Le label bio est-il un label français ou alors européen?
Bah, c'est un label pour l'instant, c'est un label au niveau des produits qui sont vendus en France. Il faut savoir quand même que depuis un certain temps, on assiste à une campagne qui vise quand même à semer le doute dans la tête du consommateur. Ce consommateur qui cherche à faire au mieux pour lui-même et puis aussi au mieux pour la planète. Alors ce flou est entretenu à dessein par des campagnes judicieuses de communication de la part des géants de l'industrie agroalimentaire. Car tant que c'est flou, tant qu'il y a un doute, le consommateur va rester sur du conventionnel. Pourquoi irait-il faire un effort financier, acheter un truc plus cher, dont il n'est pas sûr que c'est vraiment meilleur? Donc tout ça, il y a toute une série de faux arguments qu'il faut balayer, hein. Le premier argument, c'est dire, on achète local, c'est mieux, mais les pesticides ne sont pas moins dangereux quand l'agriculteur habite près de chez vous, hein. Il y a forcément énormément de local conventionnel près de chez nous. Donc, est-ce qu'il est moins nocif pour la santé parce qu'il est issu du champ d'à côté? Absolument pas. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, parce que pour la planète, il faudrait mieux acheter du local non bio que du bio de l'étranger. Mais il faut savoir que, et le bio de l'étranger, on ne sait pas comment il est fabriqué. Peut-être même serait-il pire que le conventionnel français. Déjà que pour beaucoup de consommateurs, le bio français n'incite pas à la confiance absolue. Le transport d'un produit bio, même pas local, ne pèse en rien en termes d'empreinte écologique par rapport au désastre sanitaire qui est lié à l'utilisation des pesticides et des engrais dans l'agriculture conventionnelle, fût-elle locale. Alors, bien entendu, il faut choisir des produits de saison. C'est pas le non plus d'acheter du raisin d'Afrique du Sud en janvier ou bien des tomates en février. Mais bon, il y a quand même des produits incontournables qui doivent venir de l'étranger, donc on ne doit pas se jeter le discrédit sur ce qui vient de l'étranger. Je pense que qui viennent de l'étranger, mais qui viennent aussi de France, hein, des dom-toms. Je pense par exemple aux bananes. Pour l'instant, on ne cultive pas encore de bananes à Boulogne, ni de café à Lille, ni de sucre de canne à Valenciennes, ni de chocolat à Dunkerque. Donc on doit bien quand même avoir des produits qui viennent de l'étranger. Et puis on parle beaucoup d'agriculture raisonnée, moi je suis désolé, hein, on peut pas être à la fois champion de la consommation des pesticides et champion de l'agriculture raisonnée. C'est quand même impossible et illusoire. Et alors il y a certains consommateurs qui ne croient pas au bio, qui ne font pas confiance au bio, qui pensent que les producteurs utilisent en douce des pesticides, etc. Qui disent que quand on fait des analyses, il y a des résidus de pesticides dans les produits bio. L'air est pollué, on le sait, l'eau est aussi polluée, donc il y a quand même des traces de pesticides qui passent dans les produits bio.
Alors pour ce qui est des bananes, ça va peut-être venir en France, hein, Jean-Louis, avec le réchauffement climatique.
Ah, pourquoi pas.
En tout cas, non. C'est vrai qu'il y en a qui ont comme argument que le cahier des charges ne garantit pas les mêmes caractéristiques bio pour les produits d'origine française, espagnole ou pour l'Espagne ou la Roumanie, par exemple.
Moi je suis désolé, hein. Si vraiment j'ai besoin d'un kilo de pommes, si j'ai le choix entre des pommes d'Italie et puis des pommes conventionnelles produites dans pas loin de chez moi, je n'hésite pas, hein. Je prends les pommes d'Italie. Bien quand sûr. On sait un petit peu les traitements qui sont infligés aux pommiers et puis ensuite les traitements qui sont infligés aux pommes quand elles ont été cueillies. Pour être conservé tout l'hiver, pour moi, il n'y a pas photo, hein. J'achète la pomme d'Italie. Hein.
Tout à fait. Alors, finalement, Jean-Louis, bio, oui, à fond, avec le label AB.
Bien sûr.
Bon, mais quand
ça ne veut pas dire qu'il faut pas être, que le label doit pas être amélioré. Le label, bah, il faut qu'il soit suivi. Il faut être exigeant. C'est vrai qu'il faut avoir un niveau d'exigence plus possible. Hein. On peut demander encore plus au label bio. Mmh. Mais je pense qu'il s'agit pas de toutes ces campagnes de remise en cause de ces labels. C'est vraiment pour jeter le doute dans l'esprit du consommateur.
Tout à fait. Alors bon, donc et puis évidemment, alors le nec plus ultra, c'est le bio français.
Local,
voilà, ça c'est nec plus ultra.
Ça c'est sûr que si on peut acheter bio pas loin de chez soi, c'est le paradis. Bon, le paradis, c'est vrai, à l'étrême, puisqu'il y a les serres de l'association Réagir à l'étrême. Donc, bah oui, là, c'est vraiment la garantie d'avoir quelque chose qui a du goût d'abord, et puis qui est exempt de tout produit, de tout traitement, de tout pesticide. C'est vraiment, bon, c'est labellisé AB, et puis en même temps, c'est quand même produit par une association d'insertion, donc voilà. On fait d'une pierre plusieurs coups.
Tout à fait. Ou alors, ben, il faut faire notre jardin soi-même, notre petit potager, nos petits jardins en carré, en écoutant les conseils de Bertrand Trinel, et puis planter nos propres arbres fruitiers. Mais évidemment,
fait, hein.
Cela exige quand même un petit peu de terrain. Hein.
Ça exige du terrain, ça exige du temps, mais bon, c'est vrai que maintenant, on arrive quand même à pouvoir jardiner dans des espaces de plus en plus réduits. Et donc, c'est vrai que c'est la solution idéale.
Et puis, vous parliez de Réagir. C'est vrai que il faut chercher à se renseigner, parce qu'il y a certaines villes où il y a d'autres associations. Je pense, par exemple, à Neuilly-les-Mines, il y a Neu Environnement qui pratique aussi la réinsertion grâce au jardinage bio et qui vendent au public. Alors bon, c'est vrai que notre santé vaut peut-être un petit détour, et puis vaut peut-être qu'on aille rechercher un petit peu à droite à gauche en se renseignant. Il y a encore des petites fermes qui pratiquent du bio.
Bien sûr, et puis il y a aussi des AMAP, hein.
Bien sûr.
Faut savoir, les AMAP se développent.
Tout à fait.
Dans l'agglomération lilloise, il y a quand même beaucoup de structures qui sont passées au bio. Et donc, c'est vrai que ça vaut le coup de rechercher un petit peu. Avec les moyens de communication qu'on a maintenant, on va trouver facilement des structures pas loin de chez soi, et qui produisent, qui fournissent du bio, alors que ce soit en légumes. Mais on a aussi maintenant quand même toute une gamme de magasins bio pour tous les autres produits. Hein.
Eh bien, en tout cas, on va retrouver tout de suite Bertrand Trinel avec ses conseils pour un jardinage naturel. Et c'est vrai qu'après ces constatations, Jean-Louis, eh bien, c'est vrai qu'on a vraiment envie de cultiver son petit lopin de terre. En tout cas,
voilà,
je vous remercie.
Notre jardin.
Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, puisque ce sera le lundi de Pâques, mais à dans 15 jours.
D'accord, bonne semaine.
Merci, Jean-Louis.
Au revoir.
Rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons. Leur seul langage en réponse à nos questions, c'est bien dommage, c'est celui de la répression. Ils nous dictent ce qu'on aime, ils imposent au monde entier leurs films ou leurs OGM qu'on achète sans sourciller. Ils distribuent de la farine aux pays où les sous-sols par hasard ont du platine, de l'or, du pétrole. Tous les rapaces de la mondialisation sont si vorace qu'on y laissera nos caleçons. Ils provoquent des famines, proposent des guerres clés en main. Sans vergogne, ils éliminent ceux qui encombrent leur chemin. Ils s'approprient l'eau, la terre et ces nouveaux stakhanov. Relouquent les forêts primaires, un hôtel de golf. Tous les rats rapace.
Pierre Perret, oui, malheureusement, les préoccupations environnementales sont de plus en plus au cœur de l'actualité et souvent à l'origine de catastrophes écologiques qui sont les conséquences des interventions de l'homme. Alors si, comme beaucoup, vous pensez qu'il faut réagir et vous êtes peut-être jardinier, alors oui, vous avez un rôle à jouer. Le premier, sans doute, de convertir, si ce n'est déjà fait, votre jardin en potager bio, bannissant ainsi toute utilisation de produits phytosanitaires.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement ? Bertrand nous explique comment pratiquer l'un en préservant l'autre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors on fête l'harissa aujourd'hui, rien à voir avec le piment rouge. Par contre, un dicton dit « de mars la verdure, mauvaise augure ». Alors cela vaudrait-il dire, Bertrand, qu'il ne faut pas que ça pousse trop vite et qu'il vaudrait mieux que les arbres restent sans feuilles encore un moment ?
Oui, tout à fait Martine. Donc il vaut mieux que la végétation ne redémarre pas trop vite, surtout pour nos arbres fruitiers, hein, qu'ils prennent bien le temps de fleurir. Hein. Une gelée tardive, hein, pourrait être néfaste à la production de fruits. On s'en est rendu compte l'année dernière.
Tout à fait. Alors, les arbres, justement, Bertrand, parlons-en. Je sais qu'ils sont vos amis. Vont apparaître donc les premières fleurs sur les arbres fruitiers et ensuite les premières feuilles. Alors, à cette époque de l'année, peut-on les aider de façon naturelle à avoir de beaux fruits ? Et je me souviens que lors d'une émission précédente, vous nous parliez de traitement à la bouillie bordelaise qu'on peut encore appliquer. On dit encore que c'est un excellent remède contre la tavelure de la pomme et de la poire. Alors la tavelure de la pomme et de la poire, ce sont ces petites taches qui affectent l'aspect extérieur du fruit. Alors parce que bon, c'est quand même une maladie assez fréquente, même dans un jardin qui accueille oiseaux et insectes auxiliaires, un jardin en équilibre, comme vous nous disiez. Alors est-ce qu'on peut encore appliquer de la bouillie bordelaise ?
Oui, alors c'est vrai que certains arbres fruitiers, pommiers ou poiriers, sont plus sensibles que d'autres à la tavelure. Hein, c'est une maladie cryptogamique, hein, due à deux champignons, l'un qui s'attaque au pommier, l'autre au poirier. Donc effectivement, on peut traiter l'ensemble des arbres fruitiers à la bouillie bordelaise. Hein. À l'automne, à la chute des feuilles, ça va cicatriser les feuilles qui sont tombées. Et puis maintenant, au printemps, dégonflement des bourgeons. Donc on peut compléter le traitement en pulvérisant du soufre mouillable. Hein. Mais surtout, ces traitements, on les fait pas quand il y a des fleurs. On les fait quand les fleurs ne sont pas écloses ou quand les fleurs sont déjà, les fruits sont déjà venus. Bon, pour ceux qui veulent pas utiliser de bouillie bordelaise, il y a le purin d'ortie ou la décoction de prêle, et la décoction de prêle d'ailleurs en pulvérisation. Hein. Donc à l'automne, à la chute des feuilles, surtout ramasser toutes les feuilles malades, hein, et brûler-les. Parce que les spores de champignons vont rester en terre. Donc pulvériser aussi sous les arbres atteints de tavelure une décoction de prêle directement sur le sol, hein, parce que c'est un bon fongicide, hein, et bien sûr choisir une journée sans pluie, c'est évident. Et puis si jamais vous connaissez un producteur de fromage de chèvre, vous lui demandez du petit lait. Et vous pulvérisez dès la sortie des feuilles, là par contre, le dessus des feuilles, partout, vous pulvérisez ce petit lait, vous renouvelez l'opération toutes les 3 semaines. Hein. Ce qui fait que le champignon qui se trouve dans le petit lait prend toute la place sur la feuille et il n'y a plus de place pour le champignon de la tavelure. Donc c'est un traitement tout à fait naturel.
Là c'est quand même peut-être même plus naturel que la bouillie bordelaise qui est quand même composée de sulfate de cuivre.
Tout à fait.
Ouais. Donc voilà, il faut se rapprocher, il faut... au petit lait. Alors, Bertrand, à l'occasion de la fête des grands-mères, ont été offertes un bon nombre de compositions florales dans lesquelles se trouvent des mini-narcisses qui sont en train de faner, alors bien évidemment. Alors, peut-on récupérer les bulbes et les mettre au jardin ?
Alors, oui, j'ai juste terminé avec la bouillie bordelaise.
Oui.
La bouillie bordelaise, il y a beaucoup de gens qui veulent plus l'utiliser, des jardiniers bio qui l'utilisent plus, parce que la bouillie bordelaise va agir sur la vie des micro-organismes du sol. Hein. Elle a surtout tendance, quand elle est appliquée régulièrement au même endroit, à détruire toute cette vie.
Voilà pourquoi. Donc les écosystèmes finalement.
Les écosystèmes. Donc il vaut mieux éviter de l'utiliser. Donc, alors bien sûr, on peut repiquer dans le jardin les mini-narcisses des compositions florales, hein, mais attention, il faut surtout couper la en florale, mais surtout pas couper les feuilles. Hein. Vous les repiquez en terre et puis vous n'oubliez pas d'arroser après repiquage.
D'accord, ne pas enlever les feuilles, c'est-à-dire même si elles fanent, même si elles tombent.
Tant qu'elles ne sont pas fanées, elles vont participer à la reconstitution du bulbe pour le florissement de l'année prochaine.
Tout à fait. D'accord. Alors, à cette époque de l'année, la nature sort de sa torpeur hivernale et on a envie de semer afin d'avoir les premiers légumes naturels assez vite. Mais justement, n'allons pas trop vite. Bertrand, comment savoir si la terre est prête à accueillir les premiers semis? Est-ce que la terre est assez chaude pour cela?
Alors oui, c'est bien vrai. Hein. Dès le premier rayon de soleil, hein, printanier, on a envie de jardiner, de semer. Bon, alors moi je dirais pas de précipitation. Il faut déjà que la terre soit effectivement prête à accueillir les premiers semis. Donc on va commencer par observer la terre de notre jardin. Donc on va la gratter, on va prendre une binette, quelque chose, on va la gratter sur quelques centimètres. Et puis on observe, si elle colle à l'outil, bon, on va encore attendre un peu avant de préparer les planches de culture. Maintenant, si vous enfoncez vos doigts dans le sol, eh ben, vous allez vous faire vite une idée de l'état de réchauffement. Vous allez vite savoir si la terre est froide, si elle est tiède ou si elle est bonne, quoi. Alors, si la terre est vraiment trop froide et qu'une envie irrésistible de commencer vos semis vous démange, parce qu'il y a beaucoup de jardiniers qui sont déjà prêts à partir, là, ben, on peut pendant quelques jours étendre une bâche noire en plastique, hein, vous l'étendez une semaine ou deux, avant de faire vos semis, ça réchauffe un peu le sol, mais la meilleure condition, bah, c'est d'attendre que la terre soit vraiment bonne pour semer, quoi. Il vaut mieux attendre.
Voilà, tout à fait, c'est presque comme une grossesse, hein, finalement, il faut savoir prendre son temps.
Voilà, exactement, il faut savoir prendre son temps, et d'autant plus que les plants qui vont être plantés à la bonne période, à bonne condition, pousseront beaucoup plus vite.
Alors, justement, sinon Bertrand, que peut-on planter comme légumes dans notre jardin cette semaine?
Ah bah, on peut faire plein de choses cette semaine si la terre est bonne, hein. On peut planter des oignons, des échalotes, de l'ail si on ne l'a pas encore fait, hein. On peut également planter des choux, on peut planter des plantes condimentaires comme la ciboulette, on peut repiquer la salade, hein. Si possible, là, la salade, on va peut-être la protéger d'un petit voile de protection. Bon, on peut diviser en ce moment les pieds d'artichaut, ou alors on peut en planter des nouveaux qu'on a achetés, hein. On peut diviser les pieds de rhubarbe, c'est le bon moment pour le faire. Les pieds de rhubarbe, on les divise tous les 4-5 ans, sinon ça devient trop énorme et après ça s'étouffe un peu. Et pourquoi pas planter quelques pieds de pommes de terre précoces, hein, pour en consommer, alors on peut les protéger également, et en consommant rapidement. Voilà, les topinambours, les élantis, il y a plein de choses à faire au jardin en activité en ce moment.
Et puis on commence forcément par à faire un petit peu de rangement dans le terrain ou le jardin, à déranger les pierres, comme le chante Carla Bruni. Alors on range les pots de fleurs abandonnés, on secoue un petit peu les quelques feuilles mortes qui restent et qui sont en décomposition, et alors au frais, à l'ombragé, à l'humide, on rencontre des cloportes qui sont considérés souvent comme des insectes nuisibles. Et pourtant, ils se révèlent être de bons auxiliaires de jardin. Et d'abord, j'ai dit insecte, hein, le cloporte n'est pas un insecte, mais un crustacé. Et ça, tout le monde ne le sait pas.
Ah oui, effectivement. Donc, il existe environ 3000 espèces de cloportes, hein. Alors, nous, on va parler plutôt du cloporte commun, celui qu'on rencontre dans nos jardins. Donc ce sont des êtres vivants, hein, tout à fait exceptionnels, puisque ce sont les seuls crustacés terrestres, hein, qui existent. Hein. Ils sont totalement inoffensifs, n'apportent pas de maladie, comme certains le disent, ne piquent pas. Ils sont super utiles au jardin, parce qu'ils vont décomposer tous les débris végétaux, toute la matière organique, pour favoriser la transformation en humus, pour favoriser l'humus. Donc c'est vraiment très bien pour le jardinier. Donc on en retrouve souvent en débarrassant ces pots de terre, comme vous venez de le dire, mais également dans le tas de compost, hein. Ils sont vraiment très utiles au potager, donc il faut vraiment les protéger, quoi. Surtout pas en avoir peur, parce que c'est vraiment pas des animaux nuisibles.
Tout à fait. Alors Bertrand, autre question, ma dernière. Au sein de votre association des paysages et jardins des hommes, vous privilégiez les ateliers pédagogiques pour enfants. Ils apprennent à travailler ensemble, à respecter le vivant et la nature. Ils prennent l'air, un air non pollué par les produits phytosanitaires. Et puis tout l'enseignement, et alors il y a les plantes, les fruits, la terre, les arbres. Tout ça, ce sont autant de leçons de choses dont ils profitent vraiment. Alors je suppose que va bientôt avoir lieu la reprise des cours.
Oui, alors les cours vont redémarrer le samedi 7 avril actuellement. On est en train de préparer des rectangles justement pour qu'ils puissent travailler dedans.
Alors, est-ce qu'il y a encore de la place?
Oui, il y a encore quelques places là. Oui.
Et pour les inscriptions, ça se passe comment?
Ah bah alors là, faut peut-être se renseigner alors sur notre blog. ou alors auprès de notre vice-président, hein, Julien Perret, qui s'occupe des courgettes de jardinage, hein, au 06 43 20 40 37.
Voilà.
06 43 20 40 37. Voilà.
Et puis je dis toujours, surtout allez visiter le blog des pays, de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, car il y a beaucoup, beaucoup de renseignements, beaucoup de belles photos qui donnent envie. Alors justement, pour ces ateliers de jardinage pour enfants, y a-t-il un âge limite, Bertrand ?
Il y a un âge limite de à partir de 6 ans, pas avant. Avant 6 ans, ça, c'est plus du jardinage.
Oui, tout à fait, c'est plus de la crèche.
Voilà, c'est plus de la crèche. Donc on les prend à partir de 6 ans.
En tout cas, merci Bertrand. Alors, on ne se dit pas la semaine prochaine, on se dit à lundi dans 15 jours, parce que je le disais, la semaine prochaine, c'est lundi de Pâques. Je serai encore parti faire la cloche, Bertrand.
Donc, avant 15 jours. Alors.
Avant 15 jours, et merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Je veux mes yeux dans vos yeux, je veux ma voix dans votre oreille, je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer, le mal de tout ce qui émerveille. Je veux encore brûler doucement, marcher à deux pas du soleil. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire. Ton rire dans ma bouche, je veux tes épaules qui tremblent, je veux m'échouer tendrement. Sur un paradis perdu, je veux retrouver mon double, je veux l'origine du trou. Je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire.
Carla Bruni sur Radio Plus. Alors, après avoir pris l'air avec Bertrand Rinel, on change de source de bien-être avec Valérie Bailleul, et en point de mire aujourd'hui, la sophrologie. Alors, inspirée de disciplines orientales telles que le yoga ou le zen, la sophrologie est une méthode de relaxation de type dynamique qui a pour objectif de transformer nos angoisses ou phobies en pensées positives. Valérie Bailleul, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, vous êtes thérapeute en sophrologie, hypnose, programmation neurolinguistique, relaxation, naturopathie, méditation, c'est-à-dire dans ces disciplines qui apportent un certain bien-être aux personnes qui vous consultent dans votre cabinet situé à Béthune. Alors, c'est aujourd'hui la sophrologie qui est dans notre champ de vision. Et Valérie, vous allez nous rappeler en quelques lignes les principes de cette technique thérapeutique.
Très bien. Donc, la sophrologie est principalement connue comme pratique de relaxation visant le bien-être, et c'est effectivement ce qu'elle est, en partie du moins. Mais c'est plus que cela. La sophrologie vise à la fois la détente corporelle et mentale, et par ce biais, l'équilibre global de l'être humain, se reconnectant au corps et à l'esprit, et l'esprit au corps. Parce que la sophrologie nous fait lâcher prise, parce qu'elle nous fait nous écouter nous-mêmes, on s'accepte et on apprend à avoir confiance en soi. Voilà.
Alors, en fin de compte, oui, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais en fin de compte, Valérie, vous aidez les gens à être en accord avec eux-mêmes et à développer leurs idées positives, diminuant ainsi le stress qui peut provoquer l'anxiété, la peur, voire d'ailleurs toutes ces réactions négatives. Et en général, Valérie Bailleul, qui fait appel à vous ?
Alors, en général, ce sont des personnes de tout âge, à partir de 6 ans, hein, hommes comme femmes, qui ont besoin d'un certain bien-être. Voilà.
Alors, est-ce que c'est toujours facile d'apprivoiser ces émotions ?
Non, pas très facile, parce qu'en fait, bon, ben, les émotions viennent naturellement, bien sûr, donc c'est tout un travail de fond, et comprendre pourquoi on a telle et telle émotion à tel et tel moment. Voilà.
Alors, vous aidez donc les gens à comprendre leurs émotions ?
Tout à fait.
Alors, vous arrive-t-il d'avoir en face de vous des personnes qui ne sont vraiment pas bien et qui comptent sur vous pour les sortir, on va dire, de leur mal-être ?
Oui, j'en rencontre, hein, évidemment, mais bon, c'est pas non plus la majorité des personnes qui viennent me voir. Hein. Généralement, ces personnes-là viennent me voir plus pour avoir un peu de coaching, on va dire, pour se remettre un peu en phase avec eux-mêmes. Mais bon, c'est pas la principale clientèle. Hein.
D'accord. Donc, si je comprends bien, si je vous suis, ce sont plus des gens pour qui bon, tout ne va pas trop mal, on va dire, mais qui vous consultent tout simplement pour améliorer leur performance ou alors rester positif. Vous êtes en quelque sorte, si je peux me permettre l'image, leur fleur de Bac. Certains savent ce que sont oui. les fleurs de Bac. Donc bon, il y a des gens qui pratiquent le yoga, il y en a d'autres qui préféreront des séances de sophrologie, finalement, c'est ça.
C'est ça, voilà, tout à fait. Bon, après, il y a évidemment les gens qui en ont vraiment besoin, hein, comme les dépressifs, les maladies graves, les femmes enceintes aussi, et voilà, il y a pas mal de personnes.
Ou alors, on m'a dit que vous aidiez aussi, et ça c'est important, vous aidiez aussi certaines personnes à, comment dire, à supporter leur chimiothérapie.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est tout un accompagnement. En fait, la personne vient me voir. Donc généralement, c'est la façon de respirer quand on est dans cette phase de chimio, hein, et d'accepter les inconvénients et les avantages, bien sûr, hein, puisque ça a quand même un but, hein, la chimio. Et ensuite, les personnes, je les revois pendant tout ce traitement, même après. Donc généralement, ça leur fait un grand bien.
Non seulement, oui, quand ils sont dans la salle de chimio, mais aussi à en accepter les conséquences.
Voilà, c'est ça, la perte de cheveux, etc., perte d'appétit, voilà, tout ce qui peut entourer ce traitement, en fait.
Tout à fait, ce traitement qui est quand même intrusif. Alors, voilà, Valérie Bailleul, donc, bon, admettons, je ne vais pas trop mal, mais j'ai envie d'aller encore mieux, j'ai envie je cherche mon terme, de maîtriser mes émotions. Donc je prends contact avec vous. J'ai franchi le pas, c'est bien, car c'est pas toujours évident de consentir à se faire aider. Mais ensuite, dites-moi, comment ça se passe et comment se déroulent vos séances?
Alors, dans un premier temps, nous faisons connaissance, hein. La personne me dit son mal-être, ce qu'elle attend de moi, en général. Ensuite, moi, je lui fais un test de détente et de visualisation pour voir si cette personne est réceptive ou pas, hein. Si elle est capable de visualiser les images que je lui demande. Et puis après, on établit un protocole selon son besoin.
Alors, vous parlez de visualisation. Vous pouvez expliquer un petit peu ce terme ?
Alors, visualisation, en fait, c'est un texte que je dis à la personne et je l'emmène, on va dire, ça me fait rire, mais c'est ça, en voyage. C'est-à-dire que parfois, je l'emmène à la montagne, sur le bord d'une rivière. Donc, en fait, selon le texte et la détente qui en découle, la personne arrive à se projeter, en fait, près d'une plage, enfin, voilà, à la montagne, près d'un lac, une sensation de bien-être, en fait. En fait, c'est l'esprit qui fait une image. Voilà.
Donc, on reste un petit peu dans le virtuel, et normalement, ce virtuel doit apporter un certain bien-être.
C'est ça. Voilà,
et alors, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des personnes qui font un petit peu, entre guillemets, hein, de résistance?
Oui, bien sûr. Y a des gens qui n'ont aucune visualisation. C'est-à-dire, j'ai beau dire mon texte, ils ne voient rien. Ni la rivière, ni le lac. Voilà. Donc, on axe plus notre travail sur des exercices de respiration.
D'accord. Mais vous ne les mettez pas à la porte?
Oh, bien sûr que Non, non, ils sont bienvenus, bien au contraire.
D'accord. Donc, si je comprends bien, Valérie, vous faites du cas par, au cas par cas.
Tout à fait. Tout
C'est
à
très
fait.
Personnalisé.
Ah oui, 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 oui. Oui, ben, chaque personne a son petit problème, donc oui. Oui.
Alors, votre cabinet se situe à Béthune, hein, au 213 rue Arthur Lamanda. On peut le situer puisqu'il s'agit d'aider les gens à aller mieux. Mais dites-moi, en tant que thérapeute, il vous arrive aussi d'en sortir de ce cabinet pour des consultations à l'extérieur, par exemple école, clinique, hôpital, maison de retraite ou EHPAD?
Oui, alors bon, moi je consulte à domicile, hein, pour les personnes qui n'arrivent pas à se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer, et également mon entreprise pour plus des développements personnels en fait.
Mmh. Et alors justement, donc c'est vrai que vous parlez de l'entreprise, on dit que lorsque l'homme va bien, l'entreprise va mieux. Alors c'est donc vous avez, alors comment ça se passe là, c'est personnel ou alors c'est en groupe?
C'est plus en groupe en fait, hein. Donc c'est une politique d'entreprise, hein, qui souhaite que son personnel se sente bien, se sente en adéquation avec les techniques professionnelles. Donc généralement, ben, ce sont des modules que l'on adapte en fonction des critères d'entreprise en fait, si c'est une entreprise industrielle ou autre.
Et alors Valérie Bailleul, est-ce qu'il vous arrive de travailler quelquefois avec l'enfant?
Oui, alors je travaille avec les petits, bon c'est autre chose, hein. Ça n'a rien à voir avec les adultes parce que c'est vraiment très innocent et en fait c'est très axé sur des jeux plutôt ludiques, donc c'est assez sympa.
Parce qu'il y a aussi quelquefois un mal-être chez l'enfant.
Tout à fait, oui, la colère, l'enfant se renferme sur lui-même, a également des peurs, différentes peurs, des petites pathologies parfois, enfin voilà, donc ça peut aider l'enfant à s'épanouir.
Tout à fait. Alors en fait, Valérie Bailleul, vous vous adaptez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chacun, et on insiste sur le fait que la sophrologie est une méthode douce, possédant de nombreuses indications pour de très rares effets indésirables et qu'elle représente finalement un formidable outil pour gérer son stress qui occasionne bien souvent des petits maux quotidiens comme le surmenage, troubles du sommeil, anxiété, des maux de tête aussi, hein, ou des allergies, et puis j'en passe.
Oui, alors, il y a beaucoup de choses.
La sophrologie s'apparente à l'hypnose, hein, bien que l'une travaille, vous l'avez dit, sur le conscient et que l'autre travaille sur l'inconscient. Alors justement, Valérie Bailleul, vous nous donnerez les différences lors d'une prochaine émission, car vous êtes aussi hypnothérapeute et vous nous expliquerez que la relation au patient n'est pas tout à fait la même.
Tout à fait.
Je vous dis donc.
C'est pas du tout la même chose.
Tout à fait. Je vous dis donc à très bientôt, Valérie.
Merci beaucoup, Martine.
Je rappelle que votre cabinet se situe au 213 rue Arthur Lamanda à Béthune. En tout cas, merci Valérie et je vous dis à bientôt.
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Va très vite et de l'air du temps, eh bien nous passerons à Kaléidoscope avec sa musique et ses chansons tout de suite après la petite page de publicité. En tout cas, merci pour votre fidélité, votre écoute et rendez-vous est pris dans 15 jours, c'est-à-dire après Pâques, pour une autre édition de l'air du temps. Alors si vous nous quittez maintenant, je vous dis bonne semaine, portez-vous bien avec des idées positives comme le disait Valérie, des idées positives plein la tête et surtout sans stress.
Artisan ou chef d'entreprise, vous désirez faire connaître votre